David Hume, Essai sur l'épicurien. Traduction de Philippe Folliot, 12 avril 2007, avec l'autorisation du traducteur. L'épicurien. C'est une grande mortification pour la vanité de l'homme que les plus grands progrès de son art et de son industrie ne puissent jamais égaler la plus misérable production de la nature, que ce soit pour la beauté ou pour la valeur. L'art n'est qu'un travailleur subalterne et il est employé pour donner quelques touches d'embellissement à ces pièces qui viennent de la main du maître. Une partie de la draperie peut venir de son dessin, mais il n'est pas autorisé à toucher à la figure principale. L'art peut faire un ensemble vestimentaire, mais la nature produit un homme. Même pour ces productions appelées couramment œuvres d'art, nous voyons que les plus sublimes du genre doivent leur beauté principale à la force et à l'heureuse influence de la nature. C'est à l'enthousiasme naturel des poètes que nous sommes redevables de tout ce qui est admirable dans leurs productions. Le plus grand génie, quand la nature lui fait à un moment défaut, car elle n'est pas constante, jette au loin sa lyre et n'espère pas, par les règles de l'art, atteindre cette divine harmonie qui doit provenir de la seule inspiration. Comme son pauvre ses chants ou un heureux flot de fantaisie n'a pas fourni à l'art des matériaux à embellir et à raffiner. Mais de tous ces essais infructueux de l'art, aucun n'est aussi ridicule que celui que des philosophes sévères ont entrepris, produire un bonheur artificiel et nous rendre contents par des règles de la raison et de la réflexion. Pourquoi aucun d'eux n'a-t-il réclamé la récompense que Xerxès avait promise à celui qui inventerait un nouveau plaisir? À moins peut-être qu'ils n'aient inventé tant de nouveaux plaisirs pour leur propre usage, qu'ils aient méprisé les richesses, n'ayant nul besoin des jouissances que les récompenses que ce monarque pouvait leur donner. En vérité, je suis enclin à penser qu'ils ne voulaient pas fournir à la cour de Perse un nouveau plaisir en présentant un objet de ridicule si nouveau et si inhabituel. Leurs spéculations, quand elles se limitaient à la théorie et qu'elles étaient enseignées avec gravité dans les écoles de Grèce, pouvaient exciter l'admiration de leurs élèves ignorants, mais essayer de mettre de tels principes en pratique aurait vite trahi leur absurdité. Vous prétendez me rendre heureux par la raison et par les règles de l'art? Vous devez donc me récréer par ces règles, car c'est de ma constitution et de ma structure originelle que dépend mon bonheur. Mais vous manquez du pouvoir de faire cela, et du talent aussi, j'en ai peur. Je ne peux avoir une moindre opinion de la sagesse de la nature que de la vôtre. Laissez-la diriger la machine qu'elle a si sagement organisée. Je pense que je ne pourrais que la gâcher par mon mauvais bricolage. Dans quel but prétendrais-je régler, purifier et fortifier l'un de ces ressorts ou de ces principes que la nature a implantés en moi? Est-ce suivant cette voie que je dois atteindre le bonheur? Mais le bonheur implique l'aise, le contentement, le repos et le plaisir, non la vigilance, le souci et la fatigue. La santé de mon corps consiste en la facilité avec laquelle toutes ces opérations sont exécutées. L'estomac digère les aliments, le cœur fait circuler le sang, le cerveau sépare et purifie les esprits, et tout cela sans que je me soucie de cette affaire. Si, par ma seule volonté, je pouvais stopper le sang qui circule avec impétuosité dans les veines, pourrais-je alors espérer changer le cours de mes sentiments et de mes passions? C'est en vain que je forcerai mes facultés, et que je tenterais de recevoir du plaisir d'un objet qui n'est pas propre par nature à affecter plaisamment mes organes. Je puis me faire souffrir par des efforts stériles, mais je n'atteindrai jamais aucun plaisir. Au loin donc toutes ces vaines prétentions à nous rendre heureux en nous-mêmes, à nous réjouir de nos propres pensées et à nous satisfaire de la conscience de bien faire et de mépriser toute assistance et tout approvisionnement extérieur. C'est la voie de l'orgueil, non la voie de la nature. Ce serait bien si même cet orgueil pouvait se maintenir et communiquer un réel plaisir intérieur, même mélancolique ou sévère. Mais cet impuissant orgueil ne peut rien faire de plus que de régler l'extérieur, et avec une infinité de peines et d'attentions, composer le langage et la contenance d'une dignité philosophique pour tromper le vulgaire ignorant. En attendant, le cœur est vide de toute joie, et l'esprit, qui n'est pas soutenu par ses propres objets, sombre dans la tristesse et le chagrin les plus profonds. Malheureux mais vaniteux mortel, ton esprit, être heureux en lui-même, mais de quelles ressources est-il doté pour remplir un vide aussi immense et remplacer tous les sens du corps et toutes les facultés? Ta tête peut-elle subsister sans tes autres membres? Dans une telle situation, quelle figure idiote doit-elle faire à ne rien faire que dormir et avoir mal? Dans quelle léthargie ou dans quelle mélancolie ton esprit ne doit-il pas sombrer quand il est privé d'occupations et de jouissances extérieures? Ne me gardez donc pas plus longtemps dans ce violent enfermement, ne me confinez pas en moi-même, mais montrez-moi les objets et les plaisirs qui offrent la principale jouissance. Mais pourquoi irais-je me fier à vous, sage, fier et ignorant, pour que vous me montriez le chemin du bonheur? Laissez-moi consulter mes propres passions et mes propres inclinations. C'est en elles que je dois lire les prescriptions de la nature, non dans vos discours frivoles. Mais voyez, répondant à mes vœux, le divin, l'aimable plaisir, l'amour suprême des dieux et des hommes s'avance vers moi. À son approche, mon cœur bat d'une douce chaleur. Tous mes sens et toutes mes facultés fondent de joie pendant qu'il répand autour de moi tous les agréments du printemps et tous les trésors de l'automne. La mélodie de sa voix charme mes oreilles de la plus douce musique, tandis qu'il m'invite à partager les délicieux fruits qu'il me présente avec un sourire qui répand de la splendeur dans les cieux et sur la terre. Les cupidons folâtres qui l'accompagnent ou m'éventent de leurs ailes parfumées ou versent sur mon visage des huiles enivrantes ou m'offrent leur nectar pétillant dans des gobelets d'or. Oh, laissez-moi pour toujours étendre mes membres sur ce lit de rose, et ainsi sentir les délicieux moments qui s'écoulent à pas doux et feutrés. Mais, sort cruel, où vous envolez-vous si vite? Pourquoi mes désirs ardents et cette abondance de plaisirs sous lesquels vous œuvrez hâtent-ils plutôt qu'ils ne retardent votre marche implacable? Souffrez que je jouisse de ce doux repos après m'être tant fatigué à rechercher le bonheur. Souffrez que je me gorge de ces délices après avoir souffert une abstinence aussi longue et aussi insensée. Mais il n'en sera pas ainsi. Les roses ont perdu leur teinte, le fruit sa saveur, et ce délicieux vin dont le bouquet, il y a encore peu de temps, grisait tous mes sens d'un tel délice, sollicite désormais un palais saturé. Le plaisir sourit de ma langueur. Il appelle sa sœur, la vertu, pour qu'elle me vienne en aide. La gaie et divertissante vertu répond à l'appel et amène avec elle toute la bande de mes joyeux amis. Bienvenue, mes toujours chers compagnons, trois fois bienvenue à ce somptueux repas sous les tonnelles ombragées. Votre présence a redonné à la rose sa couleur et aux fruits sa saveur. Les vapeurs du pétillant nectar enveloppent de nouveau mon cœur, tandis que vous partagez mes délices et que vos regards contents montrent le plaisir que vous apporte mon bonheur et ma satisfaction. C'est le même plaisir que je reçois de vous, et encouragé par votre joyeuse présence, je reprends la fête dont, par trop de jouissance, mes sens étaient sur le point d'être saturés, quand l'esprit n'allait pas au même pas que le corps et n'offrait pas de repos à son partenaire accablé. C'est dans nos entretiens cordiaux, mieux que dans les raisonnements formels des écoles, qu'on trouve la véritable sagesse. C'est dans la tendre amitié, mieux que dans les creuses discussions des hommes d'État et des prétendus patriotes, que se déploie la véritable vertu. Oublieux du passé, confiants en l'avenir, jouissons maintenant du présent. Et, tant que nous existons encore, fixons-nous un bien au-delà du sort et de la fortune. Demain apportera avec lui ses propres plaisirs, ou, s'il déçoit nos chers souhaits, du moins jouirons-nous du plaisir de réfléchir au plaisir d'aujourd'hui. Ne craignez pas, mes amis, que la dissonance barbare de Bacchus et de ses noceurs n'interrompe ce divertissement et ne nous trouble avec ses plaisirs turbulents et bruyants. Les joyeuses muses veillent tout près, et par leur symphonie charmeuse, qui suffit à adoucir les loups et les tigres du désert sauvage, elles insufflent une douce joie dans toutes les poitrines. Paix, harmonie et concorde règnent dans cette retraite, et le silence n'est rompu que par la musique de nos chants et les accents cordiaux de nos voix amicales. Mais écoutez, le favori des muses, le gentil Damon, joue de la lyre, et pendant qu'il accompagne ses notes harmonieuses de son chant encore plus harmonieux, il nous inspire la même heureuse débauche de fantaisie que celle dont il est lui-même transporté. Vous, heureuse jeunesse, chante-t-il, vous, favori des cieux, tandis que le printemps voluptueux verse sur vous toutes les faveurs de la floraison, ne laissez pas la gloire vous séduire de son éclat illusoire, au point de passer dans les périls et les dangers cette délicieuse saison, la fleur de votre jeunesse. La sagesse vous indique le chemin du plaisir, la nature vous fait signe de la suivre sur ce doux sentier fleuri. Fermerez-vous vos oreilles à leurs commandements? Durcirez-vous votre cœur devant leurs doux attraits? Ô mortels abusés, allez-vous donc perdre votre jeunesse? Allez-vous donc rejeter un présent si inestimable? Allez-vous donc gâcher une bénédiction si éphémère? Examinez bien votre récompense. Considérez cette gloire qui attire tant vos cœurs fiers et qui vous séduit par vos propres louanges. C'est un écho, un rêve, que dis-je, l'ombre d'un rêve, dissipé à tout vent, perdu par tout souffle contraire d'une multitude ignorante et incapable de bien juger. Vous ne craignez pas que la mort elle-même vous la ravisse. Mais voyez, tant que vous vivez encore, la calomnie vous en prive. L'ignorance la néglige, la nature n'en jouit pas. Seule la fantaisie, renonçant à tout plaisir, reçoit cette vaine récompense, vide et instable comme elle. Ainsi passent imperceptiblement les heures qui entraînent à leur suite voluptueuse tous les plaisirs des sens et toutes les joies de l'harmonie et de l'amitié. L'innocence souriante clôt le cortège, et tandis qu'elle se présente à nos yeux ravis, elle embellit toute la scène et fait que la vue de ses plaisirs nous transporte autant quand ils sont pour nous passés que quand, avec leur visage rieur, ils s'avançaient vers nous. Mais le soleil s'est couché derrière l'horizon, et l'obscurité, nous enveloppant silencieusement, a maintenant couvert d'une ombre complète la nature entière. Réjouissez-vous, mes amis, continuez votre repas, ou échangez-le contre un doux repos. Même si je suis absent, votre joie et votre tranquillité seront encore miennes. Mais où allez-vous? Quel nouveau plaisir vous appelle hors de notre société? Y a-t-il quelque chose d'agréable sans vos amis? Quelque chose peut-il plaire que nous ne partageons pas? Oui, mes amis, la joie que je recherche maintenant n'admet pas votre participation. Seul ici, je souhaite votre absence, et seul ici, je puis trouver une compensation à la perte de votre compagnie. Mais à peine me suis-je avancé à travers les arbres de l'épais bois qui répand une nuit profonde autour de moi, que, me semble-t-il, j'aperçois dans l'obscurité la charmante Célia, la maîtresse de mes désirs, qui erre d'impatience entre les arbres et qui, en avance sur leur fixée, gronde en silence contre le retard de mes pas. Mais la joie qu'elle reçoit de ma présence plaide au mieux pour mon excuse. Mais, dissipant toute inquiétude et toute idée de colère, ne laisse place qu'à la joie et l'extase mutuelle. Avec quels mots, ma belle, pourrais-je exprimer ma tendresse ou dépeindre les émotions qui réchauffent maintenant mon cœur transporté? Les mots sont trop faibles pour dire mon amour, et si, hélas, vous ne sentez pas la même flamme en vous, en vain tenterai-je de vous en communiquer une juste conception. Mais chacun de vos mots, chacun de vos mouvements, suffit à dissiper ce doute. Et tandis que ces mots et ces mouvements expriment votre passion, ils servent aussi à enflammer la mienne. Que cette solitude, ce silence et cette obscurité sont aimables. Rien n'importune alors notre âme ravie. La pensée, les sens, tout est rempli de ce bonheur mutuel qui possède l'esprit et qui donne un plaisir que les mortels abusés cherchent en vain en toute autre jouissance. Mais pourquoi votre cœur soupire-t-il de cette façon pendant que des larmes baignent vos joues rougies? Pourquoi troubler votre cœur avec de telles angoisses? Pourquoi me demander si souvent « Combien de temps mon amour durera-t-il encore ?»« Hélas, ma Célia, suis-je capable de répondre à cette question? Sais-je combien encore durera ma vie ?»« Mais cela trouble-t-il aussi votre tendre poitrine ?» L'image de notre fragile condition de mortel est-elle à jamais présente en vous pour refroidir vos heures les plus gaies et empoisonner même ces joies que l'amour inspire? Considérez plutôt que si la vie est fragile, si la jeunesse est éphémère, vous devez bien employer le moment présent et ne perdre aucune partie d'une existence si précaire. Un moment encore, et ceux-ci ne seront plus. Nous serons comme si nous n'avions jamais été. Pas un souvenir de nous ne restera sur la terre, et même les ombres fabuleuses d'ici-bas ne nous offriront pas un toit. Nos stériles angoisses, nos vains projets et nos incertaines spéculations seront engloutis et perdus. Nos doutes présents sur la cause originelle de toutes choses, ne seront hélas jamais résolues. Cela seul dont nous puissions être certains, c'est que si un esprit souverain préside à toutes choses, il doit se réjouir de nous voir remplir les fins de notre être et jouir de ce plaisir pour lequel seuls nous avons été créés. Que cette réflexion tranquillise votre esprit angoissé, mais qu'elle ne rende pas vos joies trop sérieuses en y demeurant toujours. Il suffit de connaître une bonne fois cette philosophie pour donner une liberté sans bornes à l'amour et à la gaieté, et pour chasser tous les scrupules d'une vaine superstition. Tant que la jeunesse et la passion nous inspirent d'ardents désirs, ma belle, nous devons trouver de plus joyeux sujets de conversation et mêler nos caresses amoureuses.